Bonjour à nos auditeurs de l'Institut des Libertés. Alors, cette réunion est un petit peu dans le cadre d'essayer de faire mieux comprendre ce qui se passe dans le monde. Et j'ai invité deux amis qui vont se présenter l'un après l'autre. L'un qui a eu beaucoup de contacts politiques avec la Russie, et l'autre qui a eu moins de contacts politiques, mais aussi beaucoup de contacts amicaux, travail, etc. Quant à moi, je regarde la Russie avec beaucoup d'intérêt depuis très longtemps, en me souvenant toujours de ce que disait De Gaulle, c'est-à-dire que la Russie absorbera le communisme comme le papier buvard et absorbe l'encre. Et donc, derrière chaque pays, il y a toujours une espèce d'immanence qui reste, qui fait que ce pays restera toujours lui-même. Souhaitons-le pour notre pays, en tout cas. Donc, je commence par vous, vous vous présentez.
Oui, bien, j'étais sénateur de Paris, et j'étais vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat.
Et vous vous appelez ?
Yves Pozzo di Borgo. Voilà. Alors, je n'ai pas suivi que... Je n'ai pas que des amis en Russie, je n'ai pas suivi que la Russie, j'ai suivi, en fait, tous les pays d'Asie centrale, l'Ukraine. Et j'ai beaucoup d'amis en Ukraine, beaucoup d'amis anciens parlementaires, que j'ai régulièrement en téléphone, d'ailleurs, et qui m'informent directement de ce qui se passe en Ukraine. Donc, il n'y a pas que le contact russe.
Voilà. Voilà. Donc...
Et moi, Bertrand Scholler... En fait, je me suis passionné pour la Russie à l'époque où j'étais à Sciences Po. J'ai même appris le russe, hein, parce que je trouvais que les femmes russes étaient très belles. Hein, donc, c'était intéressant de partager.
À ce moment-là, on est tout prêt à partager.
Discussions. Et j'ai jamais arrêté, parce que c'est un pays qui est tellement grand, il y a tellement belles images. Et Michel Strogoff, c'était un de mes films préférés. Donc voilà.
Mais cet acteur allemand, là, comment il s'appelait d'ailleurs ? Il était beau comme tout. L'acteur allemand qui jouait Michel Strogoff.
Ah oui, Kurt Jurgens.
Kurt Jurgens, c'était ça. Ouais, il a fait le rêve des Françaises pendant.
Et donc voilà, et puis après, dans les années 90, après la chute du mur communiste, je suis allé là-bas, j'ai acheté des tableaux et j'ai conservé en fait cet intérêt énorme pour la Russie, où je fais des expositions régulièrement et j'ai beaucoup d'amis.
Parce que vous avez une galerie.
Exactement.
Bon, alors maintenant, donc, je vais demander à M. Pozzo di Borgo de nous expliquer un petit peu de l'histoire de la dispute entre la Russie et l'Ukraine qui remonte au moins à Maïdan, c'est-à-dire à 2014, ou quelque chose comme ça, même avant, bien avant. Allez-y.
Je crois qu'il faut être, il faut bien en prendre conscience. Alors, il y a une nouvelle génération qui ne connaît pas bien l'histoire. Mais que jusqu'en 89, vous aviez un monde soviétique, hein, très, très dense, très dur, et puis un monde de la liberté qui était en fait à l'époque ce qu'on disait les Occidentaux. Et c'est vrai qu'en 89, ce monde-là explose, et il faut savoir qu'il y avait d'un côté ce qu'on appelle l'OTAN, c'était en fait les pays européens qui étaient dans une structure contrôlée par les Américains, et d'autre côté, il y avait ce qu'on appelle le pacte de Varsovie. C'était donc deux blocs qui étaient, qui ont toujours été près de la guerre l'un de l'autre. Et il s'est trouvé que dans cette période-là, il faut bien comprendre, il y a eu deux hommes qui ont été extraordinaires, Gorbatchev et puis Bush, le père Bush, vous savez. Et les deux avaient des liens très proches entre eux. Moi, plusieurs personnes m'ont dit qu'ils avaient des liens très proches. Et alors le père Bush dit à Gorbatchev, écoute, tu ne peux pas continuer à laisser cette Union soviétique et ce pacte de Varsovie aussi lourd, aussi menaçant pour les libertés du monde. Et Gorbatchev dit, très bien, oui, il n'y a pas de problème. Et donc je vais faire exploser le pacte de Varsovie, je vais faire exploser l'URSS, qu'il a fait d'ailleurs. Mais en contrepartie, dit-il, vous m'assurez, vous les Américains, que l'OTAN reste dans ses frontières, c'est-à-dire en fait les frontières de l'ancienne Europe, c'est-à-dire en fait ça s'est arrêté à l'Allemagne et à la France et, voilà. Et l'Angleterre, enfin, c'était vraiment les premiers pays de l'Union Européenne. Et dit oui. Et d'ailleurs cet accord a été signé en 1994 où il y a eu ce qu'on appelle une fondation pour la paix faite par l'OTAN et dans laquelle les Russes ont signé cette fondation pour la paix, je ne sais pas si fondation pour la paix ou partenariat pour la paix, et dans laquelle... Les Russes, les Américains ont bien signé que l'OTAN restait à ses frontières. Sauf que par la suite, vous aviez, quand ces pays, les pays du RSS ont explosé, vous aviez tous les pays de l'ancienne Union soviétique, qui étaient les pays européens, qui étaient la Tchécoslovaquie, la Pologne, les pays baltes. Et eux, si vous voulez, ils avaient supporté le communisme pendant très longtemps. C'était très dur, hein, c'était pas un régime de liberté. Et donc, ces pays-là ont dit, nous, on voudrait rentrer à l'Union européenne. Mais l'Union européenne, vous savez, il y avait des critères très lourds. Et donc, il fallait, c'était compliqué. Par contre, à l'OTAN, il suffisait de demander, et puis l'OTAN disait oui. Et le problème, c'est que les Américains et les Européens ont accepté que tous ces pays, il faut bien qu'ils trouvent une structure pour les accueillir, rentrent dans l'OTAN. Et en face, il n'y a plus tellement de réactions, parce qu'il faut savoir que de 89 à 2001, pratiquement, c'est les Américains qui dirigeaient la Russie. C'est eux qui ont fait
la Russie, l'économie russe, voilà. S'effondre.
Et tous ces pays, voilà, l'économie s'est effondrée. Et c'est tous ces pays-là, si vous voulez, sont rentrés au moment où la Russie était très faible. Mais quand arrive Poutine, c'était un autre personnage. Et Poutine, la première chose qu'il fait, il fait d'abord un discours européen qui était pratiquement le discours de Robert Schuman quelques années plus tôt. C'était vraiment, il voulait rentrer dans l'Europe. Il a d'ailleurs demandé de rentrer dans l'Union européenne. Et il demande aussi, il voit le président Clinton, il dit « je voudrais rentrer dans l'OTAN ». Et le président Clinton lui dit « je suis d'accord ». Je ne sais pas si vous imaginez, il était d'accord pour que la Russie rentre dans l'OTAN. Sauf quand le père Bush est arrivé, ils ont bloqué. Et en ce qui concerne l'Union européenne, c'est pareil. C'est que les fonctionnaires de Bruxelles ont bloqué. Parce qu'on est toujours déjà sous la dépendance, si vous voulez, des Américains. C'est-à-dire qu'on a une Union européenne très dépendante des Américains et qui considère les Américains ont toujours eu peur s'il y avait une grande alliance entre l'Union européenne et la Russie. S'il y avait eu la grande Russie ou la grande Europe, comme le voulait Mitterrand et comme le voulait Charles de Gaulle, les Américains auraient été beaucoup plus faibles. Et ils ont toujours tout fait pour casser cela. Alors, par la suite, si vous voulez, et donc l'OTAN progresse. Et en 2006, l'OTAN décide de faire entrer l'Ukraine et la Géorgie, qui sont les deux pays, les mamelles de la Russie, dans l'OTAN. Alors là, ça a été la guerre. Et en 2008, et c'est comme j'étais sénateur, c'est le conseiller du président Sarkozy qui m'a raconté l'histoire, après la réunion, il y a une réunion à Budapest avec le fils Bush, qui était maintenant président de la République, qui était président des États-Unis, Merkel, Angela Merkel, le président Sarkozy et le président Poutine. Et l'histoire m'a été racontée comme cela. Vous avez Poutine qui arrive fou de rage, alors c'est des images, c'est pas la réalité exacte, contre voix Sarkozy, il dit écoute, ce n'est pas possible, si jamais vous acceptez, vous les Européens, que l'Ukraine et la Géorgie rentrent dans l'OTAN, ça sera la guerre. Et Sarkozy lui dit écoute, enfin je traduis, hein, je n'ai pas les mots exacts, si, écoute, arrête, tu nous emmerdes, il dit arrête, ça suffit, on te dit que nous, l'Ukraine et la Géorgie ne rentreront pas dans l'OTAN. Et d'ailleurs, on l'a dit à Bush, et ce n'est pas question qu'ils rentrent dans l'OTAN. Et en plus de ça, le Conseil européen que nous maîtrisons ne rentreront pas dans l'OTAN. Et ça s'est arrêté là, et quand même. Sauf que, on a toujours senti la progression des Américains.
Qui poussaient.
Et donc, il y a eu l'affaire de l'Ukraine. Et l'affaire de l'Ukraine, si vous voulez, ça a été quelque chose... c'était surpris, mais il faut bien savoir que si la Russie a récupéré l'Ukraine, il faut aussi connaître l'histoire dramatique de l'Ukraine. Il faut savoir que dans les années 30, les communistes, les années 33-34, c'était Khrouchtchev à l'époque, qui était un jeune permanent de Staline, ils ont organisé la famine dans un pays qui est très riche, la famine en Ukraine, il y a eu 8 à 9 millions de morts. Et que quand les aliments sont arrivés en 40, tous ces Ukrainiens, dont la grande partie des Ukrainiens de l'Ouest, ils ont joué avec les Allemands. Et quand vous savez que la partie Est, où il y avait notamment la Crimée, c'était plutôt des pro-russes, il faut savoir qu'en Crimée, une personne sur deux a été tuée entre 40 et 45 par les nazis, mais pas par les nazis allemands. Par les nazis ukrainiens. Donc quand Poutine a récupéré l'Ukraine, la Crimée, ça s'est fait presque naturellement. Les gens n'étaient pas mécontents. Et qu'est-ce qui se passe? Donc l'opinion, enfin, le G8 ou le G20 se fait surtout avec ce problème-là. Et puis le président Hollande organise à Normandie les 100 ans de la guerre de 14. Et alors là, il y avait le président Poutine, il y avait le président Bush, non, ou peut-être Obama déjà. Et là, Hollande, dont on critique, mais là, il était très efficace, parce qu'il a proposé à Angela Merkel, au président russe, aux Ukrainiens, au président ukrainien qui était là, de faire en sorte, si vous voulez, qu'on s'accorde sur une sorte de convention qui s'appelait l'accord de Minsk, oui, pour qu'on puisse trouver une solution pour régler le problème Ukraine-Russie, notamment avec le fait que la Russie s'était emparée de la Crimée. Et là-dessus, ça s'est fait grâce au talent d'Hollande. Mais ça patinait. C'était pas aussi simple. Et puis surtout, les Américains n'étaient pas dans l'opération. Ce qui était quand même extraordinaire. Pour la première fois depuis de nombreuses années, l'Europe prenait en charge un problème européen. De grande Europe. Peut-être pas de l'Union européenne, mais de grande Europe. Et qu'est-ce qui se passe? Et alors, ça patinait un peu. Et moi, à l'époque, j'étais président, sénateur, j'étais président du groupe d'amitié avec l'Asie centrale. Et le 6 décembre 2014, je reçois un coup de fil de l'Élysée, enfin quelques jours avant, « Monsieur le président Hollande va à Astana voir le président du Kazakhstan, et comme vous êtes le président du groupe d'amitié, est-ce que vous pouvez venir avec lui ?» Je dis « Oui, bien sûr, c'était sympathique, on partait en avion présidentiel. » Et donc on arrive à Astana, et la nuit on part à Almaty, qui est un peu la capitale économique, et à Almaty, le lendemain matin, on a quelques réunions, puis après on devait repartir à Paris. Et là, j'étais avec mes collègues sénateurs, je vois le président Hollande qui s'approche de nous, qui dit, écoutez, bon, tout le monde part à Paris, mais vous, vous venez avec moi, je vais à Moscou. Alors il dit en plaisantant, j'ai besoin d'otages, je vous prends tous les deux comme otages, si jamais il faut que je laisse des otages au président
Poutine. Voilà, voilà, voilà. Pour y parfaire votre éducation, vous savez, voilà. comme faisaient les Chinois autrefois.
Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes donc allés en avion présidentiel à l'aéroport du Bourget de Moscou, enfin qui est l'aéroport privé, et là le président Hollande est descendu, nous on est resté dans l'avion, on n'était pas négociateur, et on a vu que ça a duré 3-4 heures de négociation assez intense. Et on a vu d'ailleurs le président Poutine qui ramenait le président Hollande, on sentait d'ailleurs dans les gestes que c'était plutôt positif, et le président Hollande, vous savez, comme on était nous sénateurs, on avait dans l'avion présidentiel, il y a toujours l'appartement, et puis vous avez les sièges d'honneur devant nous, comme on était sénateurs, on nous a mis au siège d'honneur, bon c'est... Et le président Hollande passe devant nous, alors on se permet de, moi-même et mon collègue, on dit, mais écoutez, président, ça s'est bien passé, est-ce qu'on peut vous poser des questions? Il dit, oui, oui. Donc, ils nous ont raconté plusieurs choses confidentielles que je ne dirai jamais. Mais par contre, je me souviens, à la fin, il dit, bon, maintenant, il faut que j'appelle et Merkel et Obama. Pourquoi? Parce qu'après ça, il fallait qu'ils fassent valider cet accord de Minsk au Conseil européen qui a eu lieu, je crois, le 6 février 2015, c'est-à-dire 2 mois après. Et donc, il a eu le soutien de Merkel, mais quand il y a eu le Conseil européen? Ça a été une guerre terrible, où Angela Merkel et Hollande ont été obligés, face à l'offensive des Américains par le biais des Anglais, qui étaient encore à l'Europe, par le biais des Pays-Baltes, par le biais des Polonais, qui essayaient de démonter ces accords de Minsk. Et Hollande et Merkel ont réussi à imposer ces accords en vendant, notamment en disant, bon, mais très bien, le Mistral que l'on construisait en France, vous savez, ce fameux bateau franco-russe, eh bien, on le laisse, pour donner un gage que nous, on est pour la logique de la paix, donc on ne fera pas de Mistral. Mais là où je dis qu'il y a une très grosse responsabilité de la part de président Macron, et je le dis parce que c'est là où c'est, et d'Angela Merkel dans la dernière période, c'est que ces accords de Minsk ont été toujours bloqués par les Américains et par le président Poroshenko et par le président Zelensky, qui avait dit oui, mais qui ont tout fait pour ne pas que ça s'applique.
Alors expliquez-moi pourquoi Zelensky...
Mais ils étaient dans les mains.
Ils étaient dans les mains des Américains.
Il y a deux parties en Ukraine. Il y a la partie plutôt pro-russe et la partie plutôt pro... Voilà. Et Zelensky a été élu d'ailleurs par la partie pro-russe.
Oui, c'est ça.
Et malgré tout, il a été repris en main par les Américains très vite. Et les Américains bloquent. Parce qu'il faut savoir que les Américains ont fait en Ukraine ce qu'ils avaient fait à l'époque en Russie, entre 1989 et 2001.
C'est-à-dire foutre en l'air le pays.
Partout. Ils contrôlaient tout.
Pour mieux le piller. Quoi.
Et moi, je reproche, je dis ça, le président Macron a des qualités, mais je dis que là-dessus, on a une forte responsabilité. La Commission européenne et la France et l'Allemagne. Parce qu'on a donné à l'Ukraine 17 milliards d'euros, vous savez vous-même, vous le savez, puisque 12 milliards sont partis,
on ne sait pas où.
Voilà.
Mais enfin, c'est la Cour des comptes européenne.
Il suffisait de dire de la part des Allemands et des Français, il n'est pas question qu'on donne ces milliards à Zelensky, à Poroshenko, à Zelensky, s'il n'y a pas d'accord de Minsk. On ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'on a en fait, on s'est laissé dominer par les Américains qui étaient contre. Deuxième raison aussi, la responsabilité, c'est qu'en ce qui concerne l'OTAN, je vous rappelle l'histoire du président Sarkozy qui avait dit il n'est pas question que l'Ukraine et la Géorgie rentrent dans l'OTAN. Eh bien, en la période Macron, il a laissé la petite musique au sein du Conseil européen de se dérouler la suivante. Cette petite musique, c'était quoi? Ah, l'Ukraine est un pays indépendant, donc elle peut très bien rentrer dans l'OTAN. Et ça, si vous voulez, ça n'a fait que tendre les relations avec la Russie, sans compter que chaque fois que le président Poutine voyait un responsable européen ou américain, il disait... L'Ukraine, la Géorgie ne doivent pas rentrer dans l'OTAN. C'était une demande qu'il avait faite par rapport aux promesses d'origine où on disait que l'OTAN restait. Et ce qui explique. Alors, on ne va pas non plus justifier cette agression. Hein.
Il y a quand même non, agression, on ne cherche pas à justifier pas. L'agression. On dit
mais
que ça remonte
ce que je veux
à
dire, il y a quand même, il faut bien connaître l'histoire avant. Moi, je l'ai vécu en partie. Hein,
puisque vous avez été fait partie de cette
pas
histoire,
comme acteur, pour un moment. Enfin, pas comme acteur, mais du moins comme observateur au plus haut niveau. Et j'ai bien compris. Et j'ai même fait. Je l'ai redécouvert récemment. Je vous disais que j'ai redécouvert un de mes rapports de 2016 sénatorial dans lequel je parlais de la guerre Ukraine-Russie. Alors, il faut que je retrouve savoir ce que je disais dedans. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Mais c'est vrai qu'on sentait très bien venir cela parce que vous aviez derrière. Les Américains qui vraiment étaient là, un petit peu, vous savez, un petit peu comme de la corrida, eh bien, ils mettaient des banderilles, et puis ça a explosé.
Ça a explosé. Alors, d'après ce que je comprends, et vous m'arrêtez si je dis des bêtises, bon, moi, une grosse partie de ma connaissance sur l'Ukraine, la Russie, etc., vient de mes lectures, donc je n'ai pas d'expérience particulière de vie, en quelque sorte, mais ça vient de mes lectures. Mais j'ai eu l'impression qu'en Ukraine, il y avait, allez, j'exagère peut-être un peu, mais trois populations qui... À l'ouest, vous avez, mettons, plutôt des Polonais, allez.
Plutôt, oui.
Des Polonais. Au milieu, vous avez des Ukrainiens, allez. on ne sait pas très bien ce que c'est, mais enfin, c'est des Ukrainiens, ils parlent une espèce de dialecte russe, et tout à fait à l'est, vous avez donc la partie russophone qui est tout à fait russe. Et quand je regarde ça, je me dis, ça me rappelle beaucoup, quand un empire s'effondre, il y a des tas de pays qu'on laisse avec des frontières complètement farfelues. Vous savez, on a vu ça en Afrique. Où il y avait la moitié d'une tribu qui était à gauche, l'autre qui était à droite, simplement parce qu'à gauche c'était les Anglais avant et à droite c'était les Français. Donc dans le fond, ce qu'on a, c'est la présidente de l'Ukraine, je crois, qui appelle ça, ces frontières sont des cicatrices de l'histoire. Il faudrait peut-être trouver une façon internationale de régler les problèmes de frontières qui sont, pour ne serait-ce que, par exemple, laisser la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Comment vous faites vivre trois peuples entre eux qui ne s'aiment pas ?
Voilà, en même temps, si vous voulez, moi-même, une dernière fois, je suis allé en Ukraine, et j'ai vu des journalistes qui avaient ressenti le même sentiment, c'était commencer à se créer un sentiment national ukrainien, malgré ces trois régions. Vous savez, malgré la tension, malgré la guerre qu'il y avait dans le Donbass, il y avait un sentiment ukrainien qui commençait à se créer. Et moi, j'avais perçu ça. On était plusieurs collègues, on est allé observer des élections, on devait être peut-être 200 ou 300 collègues parlementaires, et on avait observé ça. Donc c'est pour ça que j'écoute ce que vous dites, et c'est vrai.
Mais je ne sais pas, moi, je vous dis encore une fois, c'est libre. Est-ce que vous pouvez confirmer ?
Voilà.
En fait, il y a un point qui est important, en fait, c'est quand, en 2014, Zelensky... il est élu en 2016, hein, mais quand il y a
le coup d'État,
quand il y a le coup d'État
de Maïdan,
Poroshenko est élu après le coup d'État, remplace Yanukovych. Il avait perdu auparavant, il gagne après avoir été soi-disant empoisonné par les Russes. Et il a une majorité, mais pas une forte majorité en fait à l'Assemblée. Mais immédiatement, ils ont une attitude très russophobe. Donc, il décide de supprimer.
Il commence à attaquer, par exemple, la langue russe.
Exactement. Interdire les langues, interdire des relations écrites dans l'administration. Donc, la langue russe, qui est une des langues officielles, est supprimée. Et se produit un certain nombre d'événements, en particulier à Odessa, en fait, où il y a 35 personnes qui meurent brûlées.
Je suis arrivé le lendemain, d'ailleurs. Voilà. Le lendemain, j'étais là-bas.
Dans une maison de syndicat. Et ça, c'est un moment qui cristallise une grande émotion, en fait, pour les russophones. Donc, il y a ceux qui vont rejoindre, en fait, au travers de la Crimée, pour laquelle Poutine continue à être très clair en disant « c'est pas négociable ». Et il y a la région du Donbass, en fait. Et c'est là, est-ce que c'est très stratégique de la part des Russes ? Parce qu'évidemment, le Donbass ne peut pas se battre contre l'Ukraine sans être aidé par la Russie. Et l'Ukraine aurait pu assez vite balayer, mais ils décident finalement de laisser pourrir cette situation. Et grâce à ça, en fait, la possibilité de l'OTAN n'existe pas vraiment, puisqu'en fait, c'est le fameux article 5, si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, comme il est en guerre...
Il ne peut pas entrer.
Voilà.
Personne ne peut entrer dans l'OTAN s'il est dans une situation de conflit au moment où il y rentre.
Mais c'est important, il y a une guerre, mais c'est une guerre civile, aidée par différentes puissances, puisqu'en fait, à partir de 2014, et c'est ça qui est le plus important, on entraîne en fait l'armée ukrainienne. C'est vraiment l'OTAN en fait.
Il y a une faute terrible de l'Union européenne et de la France.
Et là, il se passe deux choses. En fait,
il faut l'expliquer ici. Une grosse partie des forces armées ukrainiennes ont été formées par l'OTAN et continuent à être armées par l'OTAN. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans l'OTAN, mais en fait, ils étaient quasiment dans l'OTAN puisque
ils étaient formés pour ça. Deuxièmement, ils ont éliminé les forces tous les soldats, par exemple, dans la police, ils ont éliminé tous les policiers pour remplacer par des milices et autres. C'est-à-dire que les milices, ce qui est très important, parce que il faut pas oublier l'histoire. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure. L'histoire, ils sont allés vers le nazisme pour se défendre des Russes, enfin des communistes. Et donc il y a une tradition très forte en Ukraine de réseaux nazis. D'ailleurs, les milices Azov et autres, ils n'hésitent pas à mettre des slogans. Comme ça. Et c'est ces gens-là que petit à petit, d'ailleurs, les Américains sont responsables, parce que les Américains organisaient justement l'entrée de tous ces gens-là dans la police, dans l'armée, dans tout cela. Et puis dans toutes les instances. Et il y a même des partis, justement, qui étaient représentés, ces mouvements-là, qui étaient très durs. Et le problème, et là, je crois que la grosse responsabilité, c'est les Américains, et la grosse responsabilité, c'est la faiblesse des Européens.
Et puis un autre point, parce que tout à l'heure, on évoquait Géorgie et Ukraine, c'est que l'ex-président de Géorgie devient gouverneur de la province d'Odessa.
Oui.
Avec... vraisemblablement.
Parce que, pour aller dans le même sens, moi j'étais allé observer les élections en Géorgie en 2012. Et là, c'est vrai que Chakhalvili se fait battre, mais se fait vraiment, parce qu'il y avait eu corruption extraordinaire, dans les prisons, il y avait vraiment des trucs extraordinaires, enfin c'était vraiment, il s'est fait balayer. Et donc la CIA, c'est les Américains qui géraient tout ça, l'ont récupéré en Ukraine, l'ont fait avoir nationalité, si vous voulez, donner une nationalité ukrainienne alors qu'il était géorgien, et ils l'ont mis gouverneur d'Odessa, qui était une zone plutôt russe et plus riche. Mais il a tellement pris d'argent, il est tellement corrompu qu'il est obligé d'en partir. Et d'ailleurs, maintenant, il est en prison en Géorgie. Hein, la présidente actuelle, il a été condamné, il est en prison en Géorgie. Mais cet exemple n'est qu'un exemple pour montrer que les Américains ont fait venir énormément de gens. Ouais. Même vous aviez deux secrétaires d'État américains, dont Victoria Nuland, qui est la secrétaire d'État aux affaires politiques, qui même a pris la nationalité ukrainienne et a été ministre du gouvernement ukrainien. Pour vous dire à quel point les Américains contrôlaient les choses.
Il y a un point qui est vraiment important. Je voudrais insister, en fait, c'est que si on regarde juste l'Ukraine à ce moment-là, on ne comprend pas en fait ce que vit là aussi et le jeu des Américains sans regarder la Syrie, en fait.
Oui, ça tout à fait exact.
Parce que ça se passe exactement au même moment et la réaction des Russes en Ukraine n'est pas ce qu'elle aurait pu être parce qu'ils doivent sauver la Syrie.
Ils doivent sauver la Syrie, j'en ai parlé dans d'autres endroits. Essayons de comprendre un petit peu. Parce que là, je vous demande à tous les deux de me dire ce que vous en pensez, mais n'importe quelle personne qui fait un petit peu de géostratégie, même en amateur, sait que le but de tout géostratège, c'est d'empêcher que la Russie et la Chine ne s'allient. Et j'ai l'impression que la politique américaine depuis 15 ans, c'est littéralement de forcer les bras de la Russie, de forcer la Russie et la Chine à s'allier. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer exactement ce que cherchent à faire les Américains? Parce que moi, je vois bien qu'ils font des coups tordus dans tous les sens, mais je vois pas quel est leur intérêt. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est l'intérêt des Américains? Parce que on peut pas imaginer qu'ils fassent ça par pure bêtise, par pure... Quelle est la raison?
Bon, je veux pas me poser la parole, mais... Quand j'ai terminé ma période sénatoriale, j'avais commencé à réfléchir parce que l'Amérique est quand même nos alliés. Hein.
Mais
on
tout à fait.
On a été formés par l'Amérique. On a beaucoup.
Ils ont sauvé à plusieurs reprises.
Combien de fois aux États-Unis, j'ai été même dans les universités américaines. Donc c'est quand même, si vous voulez, ça nous a marqué beaucoup. Et je me suis dit, mais quelle est la stratégie des Américains? Quelle est leur stratégie diplomatique? Eh bien, ce que j'ai constaté, que les Américains, ils s'intéressent qu'à trois choses. Le complexe militaro-industriel, le contrôle d'énergie et le dollar. Et que le reste, ils s'en moquent. Et qu'ils réagissent en fait en commerçant dans tout ce qu'ils font. Et sur l'affaire d'Ukraine, on l'a bien vu, que leur problème pour eux, c'était, si vous voulez, l'affaire du gaz. Par exemple, l'Ukraine, il faut savoir qu'elle a des quantités de gaz énormes.
Oui, pareil, oui.
Ils ont des quantités de gaz. Alors les Russes, à l'époque, intelligence soviétique, pas question que l'Ukraine, si vous voulez, produise du gaz. Parce que ça aurait été concurrent avec le gaz russe. Les Américains sont arrivés, ils ont créé plusieurs sociétés de production du gaz. Vous avez le fils Biden, le fils Kerry, enfin tous les enfants des leaders démocrates sont dans des conseils d'administration de sociétés, mais ils ne produisent pas le gaz, ils exploitent pas le gaz. Parce que leur problème pour eux, comme l'Europe est le plus grand acheteur de gaz, ils ont besoin de vendre leur gaz de schiste. Et la grosse angoisse des Américains, c'était le Nord Stream 2.
Mais bien sûr.
Et Nord Stream 2, moi je me souviens encore mon dernier rapport, c'était dans le bureau de Juncker, c'était un ami, il était président de la Commission d'affaires européennes, j'ai terminé mon rapport, il me fait appeler, il me dit viens me voir, parce qu'on me dit que tes rapports sont intéressants, j'aimerais bien que tu me le présentes. J'étais un dernier rapport sur les relations Union européenne-Russie. J'arrive, j'étais avec mon collègue socialiste, on avait fait ce rapport à deux, on arrive, on est dans le bureau de Juncker. Et à ce moment-là, c'était en 2017, c'était au juin 2017, arrive une dépêche Reuters, le président Trump veut mettre des sanctions contre Nord Stream 2. Vous savez, c'est ce grand tuyau qui aurait permis... Mais si on avait vu ce grand tuyau, les Américains ne pouvaient plus vendre leur gaz de schiste, ou beaucoup moins.
Et là, surtout, ça rendait l'Allemagne vraiment complètement dépendante de la Russie.
Et là, on voit quoi? Le président Juncker qui pense ça, qui dit, vous savez, ce n'est pas des imbéciles à ce niveau de ces postes-là. Il dit, pendant 10 ans, on va être emmerdé par les Américains. Mais j'en peux plus, je me souviens encore de sa réaction. Et c'est ce qui s'est passé. Les Américains, dans cette affaire, sont gagnants. Parce que, premièrement, ils ont bloqué Nord Stream 2, qui ne fonctionne plus. Et deuxièmement, déjà que c'était les premiers vendeurs, ils ont 8 à 10 terminales dans le Golfe du Mexique, vous savez, de gaz de schiste, enfin ça où le gaz de schiste arrive, et ils sont déjà les premiers fournisseurs de gaz de schiste en Europe, et là, avec ce qui s'est passé il y a 3-4 jours, ils ont le jackpot.
Mais on n'a pas de port. C'est bien. On n'a pas, si vous voulez, je sais que l'Allemagne, par exemple, n'a pas un seul port pour décharger les.
Donc j'imagine, si vous voulez, comme ça s'est passé au Qatar. Au Qatar, c'est pareil. Quand il y a eu l'affaire de Syrie, c'est aussi, vous savez, le tuyau.
Le tuyau, c'est ce que disait.
Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Total a fait des ports et a fait amener les bateaux. Donc maintenant, il y a beaucoup de gaz qui part par GNL. Donc j'imagine qu'on va investir, je ne sais pas très bien.
Ça prend 4, 5, 6, 7 ans. Ça veut dire que l'Europe va avoir froid pendant 4, 5, 6, 7 ans.
Ça, je suis d'accord avec vous. Surtout s'il ne paye pas en rouble.
Surtout si on paye en rouble.
Alors, par rapport à. En fait, je ne suis pas très expert dans ce que les Américains ont en tête, mais ce que je sais factuellement, c'est que quand ils ont préparé dans pas mal de pays des révolutions ou autres, il y a vraiment un long travail de préparation. Et les Américains avaient véritablement l'intention, au moment où ce piège ukrainien, Poutine tomberait dedans, parce qu'en fait, on lui tend un piège qui dure des années, lui-même sait qu'il va y aller, enfin bref. Et il y a eu un travail, et c'est pour ça que le monde de l'art est important, parce que c'est des communautés qui parlent beaucoup, qui sont très influentes dans tous les pays, donc il y a l'art, les médias, et pour les gens qui ne connaissent pas la Russie, en fait, la Russie, c'est les États-Unis, la France, c'est 800 McDonald's, c'est Auchan, ils ont été entièrement colonisés. Et donc, un des grands travaux, en fait, qu'a fait Poutine, c'était l'armée, c'était les retraités, c'était la fierté, c'était le pétrole et le gaz. Mais il a dû racheter le pétrole et le gaz, Gazprom.
C'est l'affaire Khodorkovsky.
Oui, exactement. Donc, il a eu du mal.
Que le gaz que le gaz et le pétrole partent chez les Américains. C'est pour ça qu'il y a l'affaire Khodorkovsky, que ça reste russe.
Et on ne l'a pas aidé, puisque même à Amsterdam, qui ne reconnaît plus maintenant, il était condamné à 50 milliards parce qu'il avait maltraité les actionnaires de ses boîtes, etc. Et donc, Poutine, il avait ça, il avait la guerre en Syrie, mais il avait une espèce de cinquième colonne dont il allait commencer à s'occuper, puisqu'en fait, il a nommé son nouveau Premier ministre, Mishustin, il y a 2 ans, avec une double mission, en fait. La première mission, c'était de s'occuper de la fraude, parce qu'il y a énormément de fraude,
beaucoup.
Fraude, corruption, etc. Et la deuxième mission, c'était ce qu'il appelait la cinquième colonne. C'est-à-dire, ils savent qu'il y a un danger à l'intérieur.
Les ennemis de la Russie à l'intérieur.
Exactement. Mais dans le cas de la Russie, c'est de tous les côtés. Puisqu'on voit bien, du jour au lendemain, 50% des activités commerciales ont quitté. Les boîtes de luxe, les Coca, les McDo, les machins.
Mais c'est là où ça devient intéressant, parce que quelque part, dans la chaîne de valeur créée par un pays ou par des pays, vous avez les gars qui font des matières premières qui sont sous-payés et les gars qui font la fin de la transformation, qui font les sacs Vuitton, qui sont surpayés, quoi. Et la question que je me pose et que je veux maintenant vous poser, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver à un basculement où les gars qui font les matières premières sont en train de dire « Vous allez cesser de me payer avec des billets de couleur, vous allez me payer avec ma propre monnaie ou avec de l'or ?» Et maintenant, la plus grosse partie de la valeur, si vous n'avez pas ma matière première, vous ne les faites pas, vos machins-là, en bout de ligne. Donc, est-ce qu'il y a une espèce de coup d'État rampant du monde des matières premières contre le monde développé qui serait en train d'arriver, qui va changer les termes de l'échange, et c'est-à-dire mener à un appauvrissement considérable de nos pays et un enrichissement considérable des leurs. Je ne sais pas si ce que je vous dis est vrai, mais je vous dis, est-ce que ça ferait partie d'un plan de Poutine ?
Ben, c'est un judoka.
Alors moi, je vais vous dire de ce que je vois, parce que c'est pas exactement comme ça que je verrai, mais ça rejoint votre idée. Et j'étais membre de l'Assemblée parlementaire mondiale, c'est tous les parlements du monde, et la dernière réunion était lieu à Dhaka, au Bangladesh, et ça dure 10 jours, on a les matins des commissions, et puis des séances plénières l'après-midi. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'a marqué profondément, alors que j'étais allé plusieurs fois à ces réunions. La coupure entre le monde occidentalisé, c'est-à-dire les Américains d'ailleurs qui étaient interdits dans ces réunions, ils ne pouvaient plus venir, les Européens et puis le Japon et l'Australie. Et puis le reste du monde, c'est-à-dire à peu près 1,2 milliard de personnes, et puis le reste du monde qui était presque 7 milliards. Et il y avait, je vous assure, une coupure, mais terrible, intellectuelle. Enfin, j'ai été profondément marqué par cette coupure. Je me dis, c'est le nouveau monde. Et cette idée-là, je l'ai vue quand il y a eu cette crise avec l'Ukraine. Et ce qui m'a fait plaisir, parce que je suis toujours très prudent dans mes analyses, c'est que Villepin, récemment, il y a, je crois, 3-4 jours, est passé, je ne sais plus sur quelle chaîne, expliquant qu'en fait, il y avait maintenant 2 mondes. Il y avait le monde occidental, pour le simplifier, occidentalisé, et puis le reste du monde. Mais il faut savoir que c'est les BRICS, en gros, si vous voulez, pour être plus simple, c'est les BRICS qu'on a toujours pris pour des trucs pas très importants. Mais il faut savoir que les BRICS, ce n'est pas uniquement les fournitures de matières premières.
Maintenant,
Bangladesh, moi, quand j'étais au Bangladesh, toutes les maisons de haute couture se fournissaient au Bangladesh, les produits étaient fournis là-bas. au Bangladesh. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas uniquement la production, c'est que maintenant, on est en train dans un monde qui, d'après moi, et les Européens ont été maladroits parce qu'ils ont ils sont vraiment marché dans la logique américaine, et on est en train de faire, d'après moi, une sorte de mur de Berlin entre le monde occidental et l'autre mur. Et là, je pense que dans cette affaire, vous avez d'un côté la population, vous avez la puissance économique. Quand vous pensez que vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez le Pakistan, et le Pakistan et l'Inde qui sont pratiquement tout le temps en guerre, ils sont moins unis dans cette affaire.
Le Brésil.
Le Brésil qui amène toute l'Amérique latine. Vous avez l'Afrique avec l'Afrique du Sud, et surtout quand vous pensez que le président du Sénégal, qui est quand même vraiment contrôlé par la France, dit que lui était dans une logique plutôt Poutine que d'une logique cible américaine. Quand vous voyez aussi que du côté des pays du Golfe, les gens,
ils sont très énervés.
Très énervés contre les Américains, ils disent non, on ne va plus payer en dollars. Vous êtes, on ne se rend pas compte, et avec l'affaire du rouble, et notamment l'étalon or qui revient à rouble, alors je ne suis pas économiste comme vous, mais intuitivement, je tente à penser.
Mais c'est ma question, si vous voulez, je me demande si on n'est pas en train d'asculer, d'assister à un basculement. Parce que, bon, moi, ça fait 50 ans que j'essaie de réfléchir sur les problèmes de la monnaie. Vous savez ce que disait Schumpeter, c'est qu'il disait, moi j'ai écrit surtout. Et j'ai essayé d'écrire sur la monnaie et c'est trop compliqué. Donc, la monnaie, c'est quand même un truc extraordinairement compliqué. Ça mélange la souveraineté, c'est un truc... Bon, la monnaie, c'est compliqué. Mais tout en étant compliqué, depuis 8 siècles, depuis les grands ordres monastiques, la monnaie a toujours été contrôlée par l'Occident. C'est-à-dire les mouvements de monnaie, on savait faire et on était toujours les seuls à le faire. C'est comme ça qu'on a réussi à taper tout le monde, littéralement, pendant des siècles, parce qu'on était les meilleurs pour la monnaie, quoi, c'est tout. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, avec ce qui s'est passé avec la Russie, le rouble, etc., on est en train de basculer dans le domaine de la monnaie et ils vont aussi se mettre à être très bons dans les mouvements de monnaie. Et quand ils ont interdit SWIFT à la Russie, ben, ils ont peut-être, dans le fond, ils ont peut-être fait ce que Poutine voulait qu'ils fassent.
Alors là, vous dites quelque chose de super important, parce qu'en réalité, depuis le début de cette crise, enfin, tout ce que vous dites, hein, Charles, est super important.
Non, mais c'est vrai, j'en suis très content, d'ailleurs.
Mais si vous voulez, Poutine, on en parlait tout à l'heure avant la réunion, il met un point d'honneur à respecter les règles. Et donc, il ne casse pas les contrats. Aucun contrat. Donc, il ne serait pas sorti du SWIFT,
SWIFT. Ni de l'euro, ni du dollar.
Il ne serait pas sorti des contrats gaziers. Et d'ailleurs, la Russie n'était jamais sortie des contrats gaziers, même
respecté.
À l'époque communiste.
Et en Ukraine,
ils continuent à toucher l'argent. Ils continuent à payer les 2 milliards de dollars par an.
Et 7.
Je croyais que c'était 2.
Et donc, tout ça pour dire, par rapport à votre question d'origine, c'est qu'en fait, on a tendu un piège aux Russes, c'est évident, enfin notre camp, puisqu'ils n'avaient pas le choix. Et puis depuis le début, ils le disent. Ils l'ont toujours dit, même Gorbatchev l'avait obtenu, comme vous avez dit tout à l'heure. Même Eltsine l'a dit, alors qu'il ne comprenait pas grand-chose, mais il avait dit ça, vous ne devriez pas faire.
Dans un moment où il était sobre.
Et il faut comprendre aussi que Poutine, ce n'est pas du tout un dictateur. L'armée en Russie est hyper puissante.
C'est un autocrate, mais pas un dictateur.
Non, en fait, il est dictateur parce qu'il est là depuis longtemps. Mais il applique les mêmes règles. Vous savez, cette journaliste qui passe à la télé et qui montre un panneau, le lendemain, elle est dans la rue. Depuis, il n'y a pas vraiment de procès. La même journaliste aurait fait ça en Ukraine. On l'aurait peut-être retrouvée dans une contre-allée le lendemain. D'abord, il n'y a plus qu'une seule télé. Il n'y a plus d'opposition dans le Parlement. Ce n'est pas le cas en Russie. Enfin, c'est compliqué de dire qu'il est un dictateur.
Non, mais on ne cherche pas à défendre Poutine. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il nous a tendu un piège, un contre-piège dans lequel on est tombé.
C'est ça ce que j'essaie de dire.
Avec les deux pieds dedans, et maintenant on a l'air idiot.
Et les Chinois sont contents, et tout le monde est content.
Peut-être qu'il a monté avec les Chinois.
Mais c'est cette phrase de Lavrov qui dit, il a dit ça après une semaine de conflit, en s'adressant au monde, il a dit, en fait, on était à un moment de l'histoire où si un pays ne se levait pas contre la puissance occidentale, ça ne serait plus jamais arrivé. Ça n'aurait plus été possible, sous-entendu.
Je rajoute là, je crois que vous avez raison. Enfin, moi, je suis moins compétent que vous en économie, mais je pense que vous avez raison. Se crée un nouveau monde économique. Il y a un autre élément qu'il faut...
Mais ce n'est pas simplement un nouveau monde économique. C'est qu'il y avait des mondes économiques qui se créaient, mais ils se servaient toujours de nos monnaies.
Voilà.
Et là, il y a un nouveau monde économique qui se crée, et qui
avec leur monnaie.
Qui se crée sans nos monnaies.
Quand
et
pensez,
ça va être un changement inouï.
Quand vous pensez que les pays du Golfe ont décidé de ne plus payer en dollars, mais maintenant en monnaie chinoise.
Oui,
c'est une révolution. Alors, un autre élément que je voudrais ajouter là-dessus...
Il y a plusieurs monnaies. Ce n'est pas une nouvelle monnaie contre les...
Il y a un autre élément qui est très important. c'est le rapport de force. Ma dernière réunion à l'ambassade de Moscou avec le président de la commission des affaires étrangères, à l'époque c'était Jean-Pierre Raffarin, on avait une réunion de travail sur l'armée russe. Et à l'époque, si vous voulez, le rapport de force OTAN-Russie, c'était de 10 pour 1. Et les Russes qui savaient ça avaient travaillé énormément sur des missiles antimissiles et ils avaient comme ça mis une base à Kaliningrad et à en Crimée, d'après ce que je me souviens de ce qu'on m'avait dit, et qui avait comme ça des systèmes pour se protéger des missiles américains. Mais il y avait la puissance OTAN qui était très forte. Et je me souviens, quelques temps après, je m'étais retrouvé dans un dîner avec l'ancien général français qui était le patron de l'OTAN. J'avais dit oui, il m'a dit oui, je suis obligé de reconnaître qu'on peut écraser la Russie. Sauf que il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, qui était juste un petit signe. Pendant cette guerre, vous avez vu que les Russes ont envoyé ce qu'on appelle un missile hypersonique. Ce qui veut dire, alors moi qui étais à l'époque c'était la commission de défense, ça fait 5 ans que je ne suis plus, donc je n'ai plus toutes les informations, je me suis dit, mais attends, s'ils ont un missile hypersonique, en plus de ça, avec une technologie qu'ils peuvent amener où ils veulent.
Oui, c'est ça, qui bouge. Dans
qui bouge.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer sa
trajectoire. Je me suis dit, mais alors ça veut dire que tous les critères, parce que vous savez, toutes les armées européennes et les armées américaines sont sur les mêmes critères, ce qu'on appelle les critères OTAN. Ils sont très précis, voilà. Notamment, par exemple, pour la marine, la force, ce sont les 11 porte-avions américains, le porte-avions anglais, le porte-avions français, puis le petit porte-avions italien. C'est ça, hein, c'est ça là. Et je me suis dit, mais avec un missile hypersonique...
Ils peuvent te les faire sauter les
trains. Ils peuvent sauter tous. Donc, on sait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. C'est-à-dire que tous les milliards qu'on a mis,
ça vaut rien.
Ça vaut pour rien. Alors moi, je suis plus parlementaire, j'ai plus d'informations qu'avant, j'étais un peu prudent. Et je tombe sur un de mes amis, parce que j'habite à côté de l'Assemblée nationale, qui est parlementaire, qui est toujours parlementaire, et qui est le grand spécialiste de ce problème-là, qui suit depuis toujours. Je dis, écoute, moi j'ai vu ces missiles hypersoniques, mais j'ai l'impression que les 700 milliards annuels que mettent les Américains, et puis les 40 milliards français, et puis les 40 milliards anglais, tout ça est parti en fumée. Il m'a dit, oui, tu as raison. C'est-à-dire que par, et il faut savoir, que le problème de l'hypersonique, c'était une création, enfin c'était une recherche française. Et c'était les Français qui étaient les plus développés. Et en 88, je crois que c'était le gouvernement socialiste à l'époque, c'était Mitterrand qui était élu. Non, Jospin est après. Jospin est bien après, Jospin est à 80.
À 80 après,
c'était donc pardon, plutôt oui. Le Mitterrand réélu, Mitterrand. Je pense que c'est à ce niveau-là que ça se passe. On décide, bon, c'est trop compliqué, c'est vraiment des rêveurs, les gens qui travaillent sur l'hypersonique, et donc on arrête. Par contre, les Russes, on continue dessus.
Oui. C'est un type qui s'appelle champion. Petit là-dedans.
Petit, voilà. Petit, c'était l'article qu'avait la François qu'a trouvé. Et surtout, c'est là où on se rend compte, si vous voulez, que les choses ont changé. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Bien, on a vu que les Américains, ils ne se sont pas frottés, ils le savent tout ça. Vous avez vu que les Américains sont vite repartis. Hein ? S'ils avaient été si fiers, s'ils savaient qu'ils pouvaient résister à ces missiles hypersoniques, ils ne seraient peut-être pas partis.
Alors, ce que vous dites est intéressant.
Et je continue.
Oui.
C'est que maintenant, les Allemands, moi je me souviens quand j'étais à la commission défense, on disait toujours aux Allemands, écoutez, ça va, les deux seuls pays en Europe qui investissent dans l'armée, c'est l'Angleterre et la France. Vous êtes riches, et vous ne mettez pas l'argent dans votre défense.
Mais ça m'a toujours paru une bonne idée.
Et alors,
les Allemands, ça me paraît excellent.
Et alors les Allemands, ils disent, mais écoutez, bon. Ils ont dit, écoutez, bon, promis, écoutez, on vous écoute, nous allons mettre 5 milliards. Alors on pensait, nous, 5 milliards par an. Non, 5 milliards sur 5 ans. Et là, vous avez vu ?
100 milliards.
100 milliards d'un coup, ils ont compris.
Par an ?
Par an. Ils ont, oui, mais je ne sais plus combien, mais ils ont
compris. 100 milliards par an.
Ils ont compris que s'ils investissaient pas la défense, c'était fini pour eux, les Américains ne seraient plus là.
Ce qui m'intéresse, c'est parce que Poutine, dans une déclaration, a fait une déclaration en disant « Vous n'imaginez pas ce qui peut vous tomber dessus. » Et tout le monde a pensé que c'était la guerre nucléaire. Et moi, je me suis dit, c'est peut-être pas certain, c'est qu'ils peuvent couler les 13 flottes dont vous avez parlé tout à l'heure en 5 minutes, et qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que
on est et en train les de...
Sous-marins. Je sais pas, je sais que c'est beaucoup de choses, mais je sais
mais,
pas.
Donc, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, bon... Vous êtes dans un monde maintenant où toute la stratégie militaire qu'on suit depuis 1945 vient de s'écrouler, puisque vous avez d'un côté les hypermissiles et de l'autre côté les Russes auraient des difficultés avec les drones turcs. Mais les drones turcs, ça coûte rien, c'est 750 000 euros le drone. Alors que c'est, je ne sais pas combien, dizaines de millions de dollars pour un...
C'est des milliards pour un bateau.
Pour un avion, même un avion de chasse. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que la guerre terrestre, telle qu'on l'a pratiquée autrefois, avec la domination totale de l'aviation qui permet de liquider les tanks locaux, ben avec les drones, c'est foutu. Et les 13 porte-avions, c'est foutu aussi. Donc ça veut dire qu'on est en train d'entrer dans un monde qui, militairement, est complètement différent.
Et ce qui est très surprenant, j'ai écouté, je crois...
Mais qui a été fait sur mesure par les Russes, pour les Russes.
Voilà, par oui, parce que les Russes n'avaient pas cette force, ils étaient tellement écrasés par l'OTAN qu'ils ont une stratégie de réagir...
De sortir par le côté.
Et ce qui est surprenant, c'est que des gens comme Attali, qui sont quand même des gens qui ont pensé très vifs, il résonne encore comme la guerre de 14. Il dit il faut investir dans les usines de munitions. Alors je pense à ça parce que je ne sais pas si vous avez lu les mémoires de Poincaré. Poincaré raconte la guerre. Il dit la France gagne la bataille de la Marne. Et après, on s'enferme dans les tranchées. Alors tout le monde a dit mais pourquoi on n'a pas continué après la bataille de la Marne? Faut-il nous rappeler aux Allemands? Mais tout simplement, c'est qu'on n'avait plus de munitions. Et que donc on est obligé de faire des tranchées pour s'enfermer. Et c'est ce manque de prévision, si vous voulez, ce manque de, bah alors là, de c'est réflexion.
Très, c'est
si
très intéressant parce que ça veut dire.
Et c'est exactement ce qu'on a en France. Quand vous avez Nathalie, qui était quand même quelqu'un qu'on écoute, qui dit il faut faire maintenant, il faut faire des mitraillettes pour taper sur. En gros, c'est ça, des mitraillettes avec des balles pour tirer sur les missiles hypersoniques. Enfin, ils n'ont pas compris. Je crois que le monde comprend.
Non, mais c'est pas la première fois qu'Athalie comprend rien.
Tout à l'heure, en fait, j'avais commencé, puis c'est vrai que j'ai fait une digression, mais en parallèle à tous ces efforts-là, ils ont fait des espèces, les Américains, depuis très longtemps en Russie, des espèces de réunions Tupperware, en fait, en essayant d'entrer dans les bonnes communautés et en les préparant à détester, en fait, Poutine. C'est-à-dire que Poutine, en réalité, si vous regardez les chiffres, il a des chiffres incroyables. Aucun pays au monde a des chiffres comme la Russie depuis 20 ans. Mais, bizarrement, il avait 55-60% de personnes qui appréciaient, en fait, sa politique, ce qui est complètement aberrant, puisque dans n'importe quel pays, il aurait...
Vous faites une erreur psychologique, c'est pas parce qu'on a des bons résultats qu'on est réélu, ça sert à rien. Oui, c'est strictement rien à voir, ça. Non, non, mais...
Ça, c'est d'accord avec vous.
mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, à partir du moment où les Russes sont entrés en guerre... Toutes ces communautés qui avaient été préparées déjà à détester Poutine, à détester la Russie, à pas être patriotes, se sont levées, se sont retrouvées dans la rue. Et il a dû être super ferme, et ce qui a fait des mauvaises images également pour lui, avec les manifestations locales. Alors que dans le même temps, nous, on censurait les chaînes, mais il se passait rien parce qu'on n'avait pas appris à trouver que finalement les Russes d'aujourd'hui, c'était pas des dictateurs, c'était pas les communistes d'hier. Et donc, ils ont raté la bataille de la communication.
Alors, attendez, je regarde un petit peu le temps, parce que bon, ça va, on est tout à fait dans les temps. Je voudrais aussi mettre un autre sujet sur la table, sur lequel mon ignorance ne le dispute que mon incompétence. Vous savez, c'est le suivant. C'est que je regarde ce qui se passe, et je vois que le patriarche de Constantinople décide que Kiev est maintenant une usine autonome qui ne répond plus à Moscou. Et j'apprends que le patriarche de Constantinople a reçu le patron de la CIA et Biden juste avant. Et donc je regarde et je me dis, qu'est-ce que ça veut dire l'Ukraine en russe? Ça veut dire frontière, d'après ce qu'on m'a expliqué. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois que c'est la frontière. Donc l'Ukraine, c'est la frontière entre le monde catholique et le monde orthodoxe. Et la frontière passe entre la Pologne et la Russie, quoi. C'est toujours et ça remonte à 1000 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une tentative des catholiques protestants, enfin de l'Ouest, mettons, pour attaquer l'orthodoxie à nouveau? C'est la question que je me posais.
Écoutez, moi, je suis tous les jours, je lis le Vatican News, tous les jours. Et j'ai bien vu au départ...
Ils ont été très prudents.
Alors attendez, je voyais le François Ier qui était très, disant, qui reprenait un narratif classique en disant les Russes sont des agresseurs. Et je ne dis pas qu'il ne le dit pas. Très, très critique. Et puis il y a eu une rencontre avec le... Comment ça s'appelle? Cyrilli. Et là, le discours du Vatican a changé. Il n'était pas du tout, évidemment, contre la guerre, non, le discours classique. Mais il a changé. Et surtout, c'est là qu'il a décidé, vous savez qu'il y a eu, bon, pour les chrétiens, il y a eu Fatima en 1917.
De consacrer la Russie à la Vierge.
La Vierge Marie, enfin, d'après les trois petits bergers, il avait demandé de consacrer la Russie à la Vierge. Ça n'était jamais fait. Et plusieurs fois, la sœur Lucie, enfin, celle qui a vécu plus longtemps, reprochait ça au pape en disant, vous n'avez pas. Et là, que fait le pape François? Il consacre la Russie et l'Ukraine à la Vierge Marie. Alors, c'est des affaires de chrétiens, c'est des affaires de croyants. Hein, je dis ça. Mais, si vous voulez, c'est quand même un signe dans ce que vous dites. C'est-à-dire que, alors, c'est, bon, pour ceux qui croient, c'est intéressant. Pour ceux qui ne croient pas, ils disent, bon, c'est des gadgets.
Oui, mais il y a quelque chose voilà. En fait, il y a une information qui compte vraiment, c'est le 24, en fait, le jour où la Russie rentre en Ukraine. Le jour même ou le lendemain, il y a le patriarche Kirill qui fait une allocution et dans laquelle il est extrêmement ferme et il parle quasiment de guerre sainte.
Et c'est, voilà, je me demande s'il n'y a pas des aspects, je me demande s'il n'y a pas des aspects de guerre sainte dans cette guerre.
Et je ne sais pas du tout. Clairement, hein, mais là, c'est la plus haute autorité. Ensuite, la plus haute autorité de Grèce dit la même chose. Et l'autre pays, qui est quand même un pays orthodoxe, c'est la Serbie. Et le meilleur ami quasiment dans le monde de la Russie aujourd'hui, alors qu'ils sont en Europe. Mais surtout, en fait, les deux plus hautes autorités, pas celle de Kiev, mais celle de Moscou et celle de Grèce, disent unanimement que c'est une guerre sainte.
Je déteste ce mot de guerre sainte parce qu'ils sont presque canoniques.
Mais c'est ce qu'ils expriment. En fait, c'est pas une guerre.
Une guerre ne peut être sainte que si elle est contre le mal.
Exactement. Et c'est comme ça qu'ils le présentent. C'est pas entre nous et eux, c'est vraiment, et c'est le premier qui
met le pied. Il pense que nous, notre civilisation, c'est le mal.
Exactement. Et il le dit. Il le dit texto. Il utilise le mal. Et dans la foulée, Poutine parle de l'empire du mensonge. Donc il dit pas le mal.
C'est rigolo parce que là, je reviens en arrière parce que je suis un ancien. Quand Reagan recevait l'ambassadeur russe, à chaque fois, il lui disait « N'oubliez pas de présenter mes respects à Darth Vader ». Vous savez qui était le gars dans la guerre des étoiles, vous savez qu'il y a eu le Darth Vader, vous avez été le... Et ça mettait l'autre dans un... Parce que c'était l'empire du mal, vous savez, c'était le... Et maintenant, ils disent qu'on est l'empire du mensonge.
Ouais.
Mais ce qu'il y a d'intéressant,
mais
c'est...
Mais Kirill dit l'empire du mal, lui. L'empire enfin, du mal, il dit pas l'empire du mal, il dit le mal.
Il dit le mal. Mais ce qu'il y a d'intéressant, si vous voulez, c'est que le prince du mensonge, c'est le mal. Donc ils disent la même chose tous les deux. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des aspects culturels là-dedans. Il ne faut pas oublier que l'Europe, avec Venise, a conquis, ça devait être en 1000 quelque chose, Constantinople, et l'a mise à sac, et l'a ruinée. Et Constantinople n'a plus jamais... qui était la quatrième croisade, je crois. Donc il y a quand même un contentieux entre le monde orthodoxe et le monde catholique, qui remonte à 1000 ans, quoi.
Mais
il y a
aussi...
peut-être des comptes à régler, là, je sais pas.
Alors, moi, j'ai pas eu la chance d'être comme Yves dans des confidences, hein, mais il y a une confidence qui est revenue beaucoup de fois, c'est-à-dire que quand Poutine dit « je vais prendre ma décision », après avoir écouté ses militaires, ses espions, etc., et puis c'était public.
Il va voir le patriarche.
Exactement. Et lui hésite... Enfin, Poutine hésite parce qu'il sait très bien ce qui va se passer. Parce qu'ils l'ont vu, c'est pas la première fois. Ils ont vu après les sanctions après la Crimée. Ils ont vu la manière avec laquelle l'Occident, entre guillemets, peut traiter. Donc lui, il sait que ça va être extrêmement dur, même s'ils sont très préparés. Et c'est Cyril qui lui dit non, non, attends. Là, il n'y a même pas à se poser de questions. C'est le bien, c'est nous. Contre le mal, c'est eux. Et donc, tu dois y aller. C'est ta responsabilité.
Oui, dans le sens, c'est vrai que, par exemple, je me souviens, je crois que c'est qu'un jour, Poutine a dit, bon, écoutez, ça suffit. Moi, je vais mettre dans la Constitution, je ne sais pas s'il a fait d'ailleurs, mais j'avais cet écho en tête, mais je vais mettre père et mère.
Oui, tout à fait.
Parce que tous, si vous voulez, tout ce qui veut dire les États-Unis, quand vous avez, enfin, le mouvement Vogue, quand vous avez l'OMS, enfin, c'est quand même la culture américaine, l'OMS, dit, mais finalement, on peut faire l'avortement jusqu'au dernier mois, enfin, d'ailleurs, on a un texte en France qui le permet, avec des conditions. Quand vous avez récemment un nouveau mouvement qui apparaît actuellement aux États-Unis, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui permet de dire, mais finalement, les mères devraient pouvoir tuer leur enfant jusqu'à un an si ça leur convient pas.
Oui.
Je sais pas si vous imaginez. Mais vous imaginez pour
ça,
les...
C'est vrai, ça.
Mais c'est un mouvement qui est aux États-Unis. Alors.
Mais pour inattention. Elles ont pas le droit de les tuer, mais voilà. On peut pas les accuser voilà. Si ça s'est passé par inattention.
Mais des trucs complètement fous, si vous voulez. Et ça, il faut que savoir que ça irrigue le mouvement Vogue, irrigue les universités américaines. C'est quand même des lieux d'intelligence, c'est des lieux de liberté, les Américains. Et pourtant, il y a ce mouvement, si vous voulez, qui pénètre ces mouvements-là. Et après, ça arrive en Europe et ça arrive dans ce pays-là. Et la crainte de Poutine, je rejoins ça, on l'a bien vu avec la fin d'Albanie, la jeune génération russe était très sensible à tout cela.
Mais là, c'est un problème pour la Russie. Il a mis le doigt sur... Enfin, Yves, vous venez de mettre le doigt sur les universités. Et ça, c'est, je pense que c'est vraiment une des clés de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est l'école. Hein.
Ben oui, c'est pour ça que l'école va cesser d'être importante et qu'on va s'éduquer différemment.
Mais pas pour les Russes.
Mais peut-être pas pour les Russes, parce que les Russes gagnent
en tête. Et les Chinois. Et les Indiens.
Les, les,
Et les Pakistanais.
Non, l'école reste... Nous, il s'est passé quand même un phénomène dans notre histoire, c'est que, je crois, je ne veux pas être pessimiste, mais c'est la première fois dans l'histoire de France, qui doit remonter quoi, à 1000 ans, allez, facile, que nous n'avons plus un seul grand intellectuel. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire de France. Jamais nous n'avons été sans des grands intellectuels.
Ou alors ils sont cachés.
Ou alors ils sont cachés, ou on ne leur donne pas la parole. Mais
c'est possible. Hein,
Quand j'avais 20 ans, si vous voulez, j'avais le choix entre Sartre, Aron, Jouvenel, Camus,
oui, caché, enfin, il y en avait 25. Quand vous dites caché, je pense que vous avez raison. On en a en France, mais ils ne sont plus au-dessus du radar, en fait.
Non, mais on ne les voit pas. Alors, mais je veux dire, la France, c'était un pays, comme dit mon fils en rigolant, on attrape toutes les grippes espagnoles, tous les virus dégueulasses arrivent de Chine, et toutes les idées à la con arrivent du boulevard Saint-Germain. Quoi. On est deux spécialistes pour foutre le bordel dans le monde.
Mais... Alors c'est vrai que, enfin on est un peu presque dans une même génération, c'est vrai qu'à l'époque il y avait le livre qui était important, il y avait très peu de télévision. Moi je me souviens quand j'étais avec Giscard, enfin, en 81, on avait trois télévisions, hein. Et qu'on contrôlait d'ailleurs, on contrôlait même ce qui se disait.
D'ailleurs il y avait des très bons programmes, je tiens à le dire, il y avait que deux chaînes, et c'était vachement bien parce qu'il y avait toujours des bons programmes. Aujourd'hui j'ai 1000 chaînes, et il n'y a que de la saloperie.
Voilà. Et le problème, on s'est bien rendu compte que si vous voulez, la multiplication des chaînes de télévision, des radios, des choses comme ça, a fait que l'arrivée de la bande dessinée, qui est très intéressante intellectuellement, mais a fait que, si vous voulez, que la logique de réflexion, si vous voulez, s'est atténuée en France. Et il y a une chose qui m'a fait, c'est qu'il y a une petite image récemment qui est sortie, où on voyait une jeune Ukrainienne dans une classe française, c'était sympathique d'ailleurs, et elle disait « Oh, c'est facile les mathématiques chez vous ». C'est terrible cette phrase-là. Ça veut dire que notre système à nous, qui pourtant on a quand même des grands mathématiciens comme Wilhelm Leonhard, enfin des médailles Field, eh bien, ça veut dire qu'en fait, eux, ils avaient vraiment un système éducatif qui était solide.
Qui restait dur.
Et nous, on arrive, on a une... Et cette phrase-là est mortelle pour le système éducatif. Je suis ministre de l'Éducation nationale, moi je démissionnerai. Bon, je plaisante en disant ça de Blanquer, mais c'est terrible.
Il va y avoir des places bientôt, Yves.
Il va y avoir... Non, mais... Et ce qui veut dire que si j'essaie de... Je regarde ce que je dis de beaucoup à ceux qui parfois m'écoutent, et mes clients, etc., je leur dis, il s'est passé en 30 ans un phénomène curieux, on est passé d'une civilisation qui est basée sur la logique à une civilisation basée sur la magie. Et je trouve que cette perte du sentiment logique et du sentiment scientifique en l'espace de 30 ans, c'est extraordinaire. Si vous voulez, moi j'ai plus...
On n'aime plus les maths. Hein.
Alors,
on n'aime plus le raisonnement logique, c'est-à-dire que c'est des raisonnements, c'est bien ou c'est mal. Mais attendez une seconde, c'est pas si simple que ça.
Ça, c'est une idée vraiment...
Enfin, faut pas qu'on ait l'air de vieux corneaux qui se... Je dis simplement, il y a quelque chose qui se passe dans le monde intellectuel en France.
Le problème, par exemple, je vois pour la vie française. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé la vie politique, j'étais à l'époque président du jeune de mon mouvement au niveau national, et puis j'avais créé ce qu'on appelle les universités politiques d'été. Je suis un des créateurs. Bon, personne ne le sait, mais je peux le rappeler. Et mon idée, c'est surtout de former la jeune génération, si vous voulez. J'ai formé des gens comme Bayrou qui sont passés, enfin beaucoup de gens qui sont... Mais surtout, à l'époque, vous aviez les partis politiques, c'était l'émanation d'une pensée politique. Moi, j'étais dans des partis démocrates chrétiens, c'était l'émanation de Maritain, de Mounier, de Sangnier. Et c'était les partis politiques qui déclinaient cette pensée et l'exprimaient dans la vie politique, l'exprimaient dans les programmes politiques et autres. Le problème, c'est que maintenant, cette absence et disparition des penseurs, moi je pense aux miens, enfin, Mounier, je le répète, Sangnier, Maritain, enfin, qui ont énormément influencé, d'ailleurs c'est eux qui ont influencé la création de l'Europe avec les trois fondateurs démocrates chrétiens, enfin, Schuman, Gasperi et puis Adenauer. Voilà, c'est ces gens-là, si vous voulez. Et là, le problème maintenant, c'est qu'on se rend compte que les partis politiques, d'abord, ne sont plus rattachés à des pensées, à des penseurs, ne sont plus du tout rattachés à des penseurs, que les partis politiques ne font plus les programmes, et on le voit très bien avec l'affaire McKinsey, ce ne sont plus du tout ni la pensée, ni les partis politiques qui font les programmes, mais ce sont les sociétés de conseil qui font maintenant le programme. On l'a bien vu, la gestion du pays par Macron, enfin par le président Macron, ou la gestion de l'Union européenne, par les grandes sociétés de conseil. Parce que justement, les penseurs ont disparu, les penseurs qui irriguaient, moi en face, je me souviens, on avait la pensée démocrate chrétienne, on avait la pensée communiste. On peut critiquer la pensée communiste, mais si vous voulez, il y avait Marx, il y avait Singer, enfin, il y avait un tas de gens qui étaient des gens qui exprimaient une pensée. Et pareil pour la pensée libérale. Il y avait la pensée libérale, c'était les penseurs du 19e siècle qui avaient énormément influencé Tocqueville et autres, et il y avait le parti libéral, à l'époque c'était le parti Giscard d'Estaing, qui exprimait et dans son programme cette pensée-là. Actuellement, prenez les partis, vous n'avez pratiquement aucun des partis qui peut faire référence à un penseur. Personne.
C'est intéressant,
en France.
Vous dites.
Personne. Aucun. Et tout simplement rien. Donc ils ne peuvent pas avoir, puisqu'ils ne font pas référence à un penseur, ils ne peuvent pas avoir un programme. Et d'ailleurs, ça c'est depuis 15-20 ans déjà. Moi j'ai bien vu, c'était trois énarques qui faisaient le programme dans les partis politiques. Parce qu'on a justement laissé filer cette réflexion qui était basée sur des penseurs. Alors on prenait trois énarques qui faisaient le programme, et le programme était après le programme du candidat. Et là, maintenant, c'est plus les trois énarques. Maintenant, ce sont des structures de conseil, c'est McKinsey qui font. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose, après moi, qui est très profond, qui montre une faiblesse de réflexion, parce que votre remarque est très importante, une faiblesse de réflexion, alors qu'il doit y avoir certainement des penseurs, mais qui n'irriguent pas suffisamment la vie quotidienne.
Qui ne sont plus... Et c'est peut-être la mort de l'université après mai 68
aussi,
qui a créé
peut-être,
ça.
Peut-être aussi.
Mais oui. Alors la question, c'est, et puis on va terminer là-dessus, si vous voulez bien, parce que le temps passe, et on est vendredi soir, non ? Ou c'est ça, on est vendredi soir, donc il ne faut pas exagérer quand même. Donc, mais il ne faut pas trop travailler, on va finir par se fatiguer. Mais est-ce qu'il y a encore des penseurs comme ça en Russie ? À votre avis ? Parce que moi, je connais alors, mal, j'ai lu Solzhenitsyn parce que j'ai eu une...
Voilà. Alors ça, c'est une discussion qu'on avait eue il y a quelques semaines. On se voit régulièrement avec...
Est-ce que la pensée est d'origine religieuse, comme vous semblez le souligner avec Cyril ?
Mais en fait, c'est... Ce qui traduit en fait ce que vous dites par rapport aux pensées, c'est le niveau des discours des hommes politiques, enfin, je pense.
Les références.
Et, exactement. Et si vous regardez, en fait, vous avez Poutine qui fait des discours et que les gens redécouvrent même des discours qu'il a fait, qui sont construits, 2001, qui montrent une vision. Et il y a une vraie continuité. Donc lui-même est une forme de pensée. On prend les discours des présidents chinois, pareil, de Moody, et puis d'un certain nombre de dictateurs. Kadhafi, Bachar, quitte à être choquant, mais qui avait une véritable vision par rapport à l'Afrique pour Kadhafi, par rapport à... Et en fait, De Gaulle, et c'est un mélange entre des penseurs, mais surtout des personnages exceptionnels qui ont une vraie vision, en fait. Qui ont...
De Gaulle, c'était la pensée démocrate chrétienne. Ouais. De Gaulle, il a été élevé...
Il avait très influencé par Maurras aussi.
Démocrate chrétien plus Maurras, mais lui-même
c'est
aussi...
C'est ce qui est un mélange curieux.
Le mélange de sa période.
Oui, c'est tout à fait ça.
Et De Gaulle, quand on voyait très bien, quand il exprimait les choses, il exprimait tout cela.
Mais Poutine, quand il parle des gens qui l'ont le plus influencé, il parle des écrits sur De Gaulle. De De Gaulle. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se référence pas par rapport à des auteurs, il se référence par rapport à des grands hommes. Et je pense que c'est deux choses...
C'est pas la même chose. Alors parfois, on peut être un auteur et un grand homme, mais c'est assez rare. Enfin, il y a eu Churchill. Donc, alors, essayons maintenant de conclure, puisque c'est simplement... comment ça va se terminer tout ça ? Moi, mon impression, si vous voulez, c'est que l'Europe est sur un mauvais chemin. Et qu'on risque d'un appauvrissement considérable, parce que j'ai vu les prévisions à long terme de la Commission qui dit qu'on doit faire baisser notre consommation d'énergie de 17% dans les 10 ans qui viennent. Bon, mais ça fait une baisse du PIB de 17%, c'est-à-dire un appauvrissement considérable que la Commission a l'air d'organiser. Alors je voudrais savoir, pourquoi a-t-on cette espèce de déclinisme européen ? Pourquoi veulent-ils nous faire revenir en arrière ? Pourquoi refusent-ils la technologie ? Pourquoi refusent-ils le nucléaire ? Pourquoi refusent-ils surtout les Allemands, qui ont toujours été des ingénieurs ? Donc j'ai un problème. Il y a eu une perte de confiance de l'Europe en elle-même.
Mais c'est pas ça. C'est que, si vous voulez, l'Europe n'est plus... Moi, qui suis un très européen, là, par exemple, sur cette affaire, je suis ravi, parce qu'il y a eu l'Union européenne, même s'il y a eu quelques différences entre l'Allemagne et la France sur des sujets. Mais je crois surtout, si vous voulez, c'est que... Là, c'est De Gaulle qui disait ça, d'ailleurs. Moi, mes amis centristes... Enfin, j'étais pas encore né politiquement, mais en 62, quand mes amis centristes ont quitté le gouvernement de De Gaulle en disant, criant l'Europe, l'Europe, alors De Gaulle avait dit « Ah oui, comme des cabris, ils sautent l'Europe, l'Europe, l'Europe. » Et ce qu'ils ignorent, c'est que cette Europe va être dirigée par des fonctionnaires. Et d'ailleurs, De Gaulle, rappelez-vous, à l'époque, avec le commissaire allemand nazi, d'ailleurs, qui était un ancien nazi, qui était le commissaire, le président de la Commission européenne, il n'allait plus. Les Français n'allaient plus. La chaise vide. Et c'est un petit la chaise vide. Et moi, je me rends compte que De Gaulle avait raison. C'est-à-dire que moi, j'étais vice-président.
C'était une perte de démocratie.
Bien sûr. J'étais vice-président de la Commission des affaires européennes. J'étais tout le temps à Bruxelles. Mais je me rendis compte que, si vous voulez, il n'y a plus aucun politique qui dirige. Ce n'est que des fonctionnaires ou des politiques à la retraite. À la Commission européenne, il n'y a que des politiques à la retraite, d'ailleurs très souvent corrompues, ça je le dis, parce que j'en suis sûr, je le confirme, et dans les mains des Américains, et si vous voulez, déconnecter complètement. Quand vous pensez que Mme Van Leyen décide, si vous voulez, d'acheter des armes, décide des sanctions sans que les parlements nationaux soient consultés, et vous n'avez aucun parlement national qui réagit ? Nous, le Sénat ou l'Assemblée nationale, personne, ils applaudissent Zelensky, mais personne. Alors, réagir en disant, mais comment les sanctions ? Mais ça doit passer par nous. Qu'est-ce que c'est cette affaire ? Ça concerne votre vie quotidienne et vous avez le Parlement qui dit rien. Et dans tous les parlements nationaux. Personne ne dit rien. Tout le monde accepte que ce soit trois fonctionnaires, trois commissaires européens qui sont des gens qui sont finis dans leur pays au niveau politique, qui décident ça pour nous. Et vous avez le Conseil européen où théoriquement, c'est les chefs d'État. Comme ils arrivent, ils suivent toujours, ils entérinent. Et là, je vous assure que la structure européenne telle qu'elle est, si on ne la change pas, bien, c'est ce qui se passe, le déclin de l'Europe. Ça, alors là,
moi je dis toujours qu'il n'y a pas plus européen que moi, mais qu'il faut sortir. Tout le monde veut faire le Frexit ou n'importe quoi. Ce qu'il faut, c'est faire le Bruxit, sortir Bruxelles de l'Europe. Revenir aux années d'avant Delors, où c'était les politiques qui prenaient les décisions.
Jusqu'à Delors, d'ailleurs, c'était bien. Et c'est à partir de Delors, d'ailleurs, que les Américains ont pris pratiquement le contrôle de l'Union européenne. Pratiquement tous je pense à Barroso, qui était quelqu'un de la CIA, qui après, maintenant, travaille dans un fonds américain. Je pense à tous les commissaires européens. Ils étaient tous liés avec les Américains.
Et puis tous les young leaders.
Pourquoi vous avez perdu il y a 5 ans?
Parce que ça n'a rien à voir avec l'Europe, je peux vous dire. Les élections, comme disait M. Gaffe, ça n'a rien à voir avec le résultat.
Non, mais s'il faut revenir un peu en politique.
Non, moi je ne veux
pas. Si.
Non, je m'amuse.
C'est ma conclusion à moi. il faut que les grands sages reviennent.
Il y a toujours la même chose. Il y a la politique, donc qui est très, très embêtant de s'en occuper. Et il y a le politique qui vous rattrape toujours. Et je crois qu'à force de ne pas s'occuper de la politique, le politique va nous rattraper très méchamment. Ben écoutez, merci beaucoup messieurs, j'ai été très content de cette discussion. On va voir comment les auditeurs la reçoivent, mais c'était simplement un effort pour que des gens qui ont été dans le mouvement, qui ont connu ces pays, vous expliquent ce qu'ils ont vu au jour le jour, quoi. Pas simplement ce qu'il y a au journal télévisé à 20h. Quoi.